Qu'est-ce qui vous rend libre, vous ? Non, parce qu'on le pose comme un postulat, comme une vérité, comme un fait avéré, mais on peut quand même s'interroger. Qu'est-ce qui vous rend libre ? Le temps, tiens. Le temps plus que l'argent, n'en déplaise au dicton. La possibilité de l'émancipation, la rébellion, la révolte, la révolution, le fait de pouvoir dire non, parfois. L'oubli rend libre, la mémoire aussi, ça dépend des fois. Le choix, pour autant qu'on puisse choisir. Le privilège, évidemment, parce qu'on n'a pas tous le même capital de liberté. Le fait de ne pas l'avoir été libre, au moins une fois. Et de toujours s'en souvenir, le rêve qui réalise ce qui dans le réel ne saurait advenir, le rire, disait Maryse Condé, on rit, donc on se libère, donc on peut combattre, le voyage, même de l'autre côté de la rue aussi, le mouvement, le déplacement, l'information évidemment, qu'on apprend à pouvoir critiquer par l'éducation, l'instruction, l'école qui nous ouvre d'autres horizons, les arts rendent libres aussi parce qu'ils invitent à penser autrement. Les autres rendent libres également, pour peu qu'on les écoute, puis l'inconscience aussi, la naïveté, la candeur, l'innocence, cette liberté qu'il est si difficile de retrouver, celle de l'enfance. Le fait peut-être d'apprendre à danser avec ses chaînes, disait Nietzsche. L'amour rend libre quelquefois, même s'il m'a beaucoup enchaîné, moi. Le pouvoir de ce mot, disait Paul Éluard, dont il suffit d'écrire le nom. Liberté.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-elle libre ? Vous l'avez vu dans Pirates des Caraïbes, dans Orgueil et Préjugés ou encore dans Anna Karenine. Vous êtes tombé amoureux d'elle dans Love Actually. C'est dans le rôle de la grande Colette qu'on la retrouvera demain au cinéma. Bonjour Keira Knightley.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui vous rend libre, vous ?
I love that question.
Ah, j'adore cette question. Je ne connais pas la réponse. Qu'est-ce qui me rend libre ? La liberté de penser, probablement, c'est la chose la plus importante. La liberté de mouvement, la liberté de penser. Et puis d'aimer ce que je veux aimer.
En tant que femme, dans quelle mesure est-ce que cette liberté, à votre avis, a été plus difficile à conquérir ?
Yes, of course, no, never the freedom.
Elle a été plus difficile, certainement pas la liberté de penser, bien sûr, mais la liberté de vivre comme je l'entends, de vivre ce que j'ai envie de vivre. Je pense que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes à cet égard. Certainement pas d'aimer ouvertement, de vivre des expériences de vie comme le font les hommes. Je n'ai pas eu cette liberté et je pense que la plupart des femmes n'ont pas cette même liberté que les hommes, et on devrait.
C'est un combat que vous menez ?
Non, je pense que le débat public va dans ce sens actuellement, et je suis ravie d'en parler. Très clairement, nous ne sommes pas payés comme les hommes à emploi égal, et il faut qu'on soit payé comme eux, il faut cette liberté, il faut qu'on puisse s'exprimer comme eux, comme les hommes, évidemment.
Alors évidemment, vous voyez pourquoi je vous pose la question, Keira Knightley, vous jouez dans un film sur Colette, cette femme de lettres française qui incarne une certaine idée de la liberté, et qui sort dans un contexte particulier, en plein moment Time's Up et Me Too, quel sens ça a pour vous que ce film précisément sorte aujourd'hui ?
C'est intéressant parce que Wash Westmoreland essaie depuis 17 ans de faire ce film et il s'est dit c'est vraiment une histoire extraordinaire, c'est une femme hors du commun, très célèbre. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle a fallu 17 ans pour qu'il puisse faire ce film ? Lorsqu'on a fait le film, Me Too ne s'était pas encore produit, c'est le cas entre temps bien sûr. Et vous savez, c'était des choses qui se produisent parfois, c'est-à-dire que les féministes ne parlaient pas encore, mais les choses étaient dans l'air du temps, dans l'esprit du public. Donc, si le film s'est fait, finalement, c'est parce que le public le voulait. On voulait des histoires de femmes.
Entre nous, Keira Knightley, est-ce que vous avez vu du changement dans l'industrie du film à Hollywood depuis l'affaire Weinstein, en ce qui concerne la place et le pouvoir des femmes dans l'industrie ?
Oui, sans aucun doute. Les gens sont plus prudents. Enfin, après, c'est l'avenir qui nous dira, mais je crois qu'on veut que les femmes soient davantage représentées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai débat. On se dit, mais il y a trop peu de réalisatrices, trop peu de femmes auteurs, il faut vraiment changer cela. Et il faut que les histoires de femmes soient racontées par des femmes davantage. Alors là, c'est Colette. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réalisateur qui a fait ce film. Et pourtant, il était obsédé par elle. Et il a bien raconté son histoire parce qu'elle a beaucoup écrit sur sa vie. On a accès à beaucoup de choses sur sa vie à travers ses romans. On peut comprendre comment elle voit les choses et comment elle voit le monde grâce à cela. Et je crois que les arts ont besoin de davantage de femmes comme elle.
May I introduce you to my wife, Colette?
Tu pourrais écrire.
Mes histoires d'écolière.
Oui, ça pourrait être le prochain roman de Willy.
Est-ce que vous écrivez aussi pour lui?
Oui. Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny.
Claudine!
Madame Colette, I believe Willy based Claudine in part on your school days.
Yes, I think I had a little something to contribute.
Écris!
Willy, espèce de salaud!
My name is Colette. And the hand that holds the pen writes history.
Quelle femme est-ce que vous avez découverte, Keira Knightley, à travers ce personnage de Colette, assez hors du commun, il faut bien le dire?
Oh, I don't know.
Je ne sais pas, je dirais une pionnière. Une femme qui a vécu sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle ne se sentait pas très à l'aise dans le monde où elle était, donc elle a adapté ce monde pour s'y trouver bien. Elle a vécu la vie pleinement et elle a vécu ce qu'elle avait à vivre sans honte, à chaque fois qu'elle avait des choses à vivre, et moi je trouve ça très stimulant.
Mais comment vous expliquez qu'à son époque, elle ait pu vivre de cette manière, si libre ?
Vous savez, c'est peut-être lié à l'époque. Hein. Souvent, on a tendance à croire que le passé était plus conservateur ou qu'il y avait moins de liberté. Je n'en suis pas certaine. C'est cyclique. Hein. La Belle Époque, enfin, vous connaissez peut-être cela mieux que moi. Enfin, c'est un moment de liberté, de grande liberté créative, artistique. On a repoussé les frontières et je pense que vraiment, elle était au centre même de cette tendance-là.
Une époque qui n'est pas dénuée de schémas patriarcaux, pour autant. On le découvre dans le film. Je pense au mari de Colette dont elle est la plume et qui s'est passé pour l'auteur de la série Claudine. Le film est même centré sur cette histoire-là et c'est comme si elle lui donnait sa voix à son mari, en fait.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme qui s'est littéralement approprié ses mots. Il a dit qu'il était l'auteur de ses quatre premiers romans. Je ne sais pas si elle pensait que ses mots forcément seraient pris au sérieux si on savait que c'était les siens à elle, les mots d'une femme. Peut-être qu'ils n'auraient pas été reçus comme des mots émanant d'un génie. Or, c'était le cas. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à ce moment-là, elle a eu besoin d'un homme pour que sa voix soit entendue. Je ne suis pas certaine que ça ait tellement changé. On a encore aujourd'hui tendance à penser qu'un artiste homme ou un écrivain homme est plus crédible. Lorsqu'une femme écrit sur sa vie, c'est un récit autobiographique et quand c'est un homme, on dit que c'est de l'art. Donc, bien sûr, les choses ont un petit peu changé. On a le droit de vote entre-temps, nous les femmes, mais quand même, il y a des parallèles. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le scénario. Je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qui se passe il y a plus de 100 ans et pourtant c'est tellement actuel.
Est-ce que vous pensez qu'on encourage assez les jeunes filles à saisir leur liberté aujourd'hui ?
Je pense qu'on essaye tous. C'est vraiment un moment particulièrement intéressant. Être la mère d'une petite fille aujourd'hui, c'est très intéressant. On peut lui dire, tu vois, tel ou tel droit, nous ne l'avons pas encore. Il faut essayer de lutter pour que le monde soit meilleur pour tout le monde. Je pense qu'un patriarcat toxique, ça n'est bon pour personne, ni pour les hommes, ni pour les femmes. C'est vraiment gagnant-gagnant, cette évolution. Il y a un vrai changement. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas en parler. C'est le cas aujourd'hui, donc on verra.
Et changer les choses, Keira Knightley, est-ce que ça ne passerait pas aussi par l'idée de raconter d'autres histoires ? Peut-être.
Absolument. Il y a une série, je ne sais pas si vous connaissez, une série de livres pour les petites filles qui s'appelle Little People, Big Dreams, hein, et qui raconte par exemple l'histoire de Frida Kahlo, de Mère Teresa, tout un tas de femmes dont on raconte l'histoire. Et j'ai tous ces livres à la maison. Et je pense que c'est intéressant, ça permet de montrer aux petites filles qu'elles ne sont pas la petite princesse pour laquelle on va lutter, que l'on va sauver. Il y a aussi ces femmes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Or, les femmes, souvent, nous ne savons pas qui sont nos héroïnes. Or, moi, je pense que Colette, elle fait partie de ces héroïnes. Et je suis contente de voir qu'il y a des éditeurs qui se battent, qui se démènent pour dire aux petites filles, voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être libre, comme Frida Kahlo ou toute autre femme, Marie Curie ou autre. Tu peux être qui tu veux. Je pense que c'est un message important.
J'ai cru à un moment donné, Keira Knightley, que vous alliez nous ressortir toute votre histoire contre les films de Walt Disney.
Mais non, c'est pas Disney. Enfin, c'est les contes de fées plutôt. Hein. Quand on est mère, on doit faire des choix et on décide ce que l'on veut montrer à ses enfants ou pas. Je pense que ça ne pose pas de problème.
À quel moment est-ce que vous avez pris conscience, vous, de l'injustice, des inégalités entre filles et garçons ?
J'ai été très sportive, j'aime le foot et on ne m'a jamais autorisée à être footballeuse professionnelle. C'est très simple. Et d'ailleurs, on ne voulait pas que je joue non plus avec les garçons au foot à l'école, alors que j'adore ça, j'adore jouer au foot, j'adore le regarder. Et c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire une carrière de footballeuse. Je me souviens que j'avais 8-9 ans, j'ai organisé une protestation, on a fait un sit-in sur le terrain de foot et on a dit « les garçons ne joueront pas si on ne peut pas jouer aussi ». après ça, il y a eu enfin une équipe féminine de football à l'école. Mais je crois que vraiment, très jeunes, les filles se rendent compte et se disent qu'il y a quelque chose de différent. Par exemple, moi, je n'avais pas le droit de regarder le foot féminin à la télévision, il n'y en avait pas. Les choses ont un petit peu changé, mais il n'empêche, si vous êtes footballeuse, vous êtes moins payée qu'un footballeur. C'est normal, ça ?
Non, certainement pas. Quand vous avez joué Joula comme Beckham, en revanche, ça devait être une drôle de revanche.
It was very personal.
Et comment ? Très personnel, effectivement.
Celle qui est la revanche dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Kira, c'est la culture et son actualité qui est parfois imbérable et franchement dégueulasse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 15 janvier ?
C'est la crise de la quarantaine, ça, non ?
Rien à voir, j'ai 38 ans.
Assurance Tout Rire, c'est aujourd'hui que commence la 22e édition du Festival International de la Comédie de l'Alpe d'Huez. La manifestation qui s'est imposée comme une véritable rampe de lancement pour les films comiques français sera présidée cette année par Alexandra Lamy. Au programme, une compétition officielle qui verra s'affronter 8 réalisations dont Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch et Malik Bentala, Mon bébé, le prochain film de Lisa Azuelos ou encore Les petits flocons de Joséphine Demeaux. Bref, la comédie à la montagne, ça nous gagne.
Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur.
On les retrouve dans nos cœurs et ils font refleurir tous nos rêves de bonheur. Johnny, évidemment, mais aussi Sylvie, Françoise, Sheila, les Stones, Marianne Faithfull ou les Beatles. Tous les souvenirs de ces icônes, on les retrouve dans la grande rétrospective consacrée à l'œuvre du photographe Jean-Marie Perrier, témoin privilégié d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jusqu'au 3 mars, 300 clichés, dont près de 100 inédits, sont réunis sur le toit de la Grande Arche de la Défense, près de Paris. Nostalgie. Patron un jour, patron toujours, le classement des meilleures ventes d'albums en France en 2018 qui inclut les chiffres du stream vient d'être révélé. Sans surprise, c'est l'album posthume de Johnny Hallyday qui domine largement le game avec près de 1 500 000 unités réunissant CD, vinyle, téléchargement et streaming. Mon pays c'est l'amour, clou au poteau, ceinture noire de Maître Gims et Gentleman de Dadju. Bravo Moret.
Une espèce d'ivresse, hein. C'est vrai qu'on se sent un peu Dieu quand on crée des personnages qui ont l'air de vivre.
Houellebecq à la fête, alors que son nouveau roman Sérotonine cartonne en librairie et fait déjà l'objet d'une réimpression. Livre Hebdo nous apprend que Michel Houellebecq va voir son précédent opus Soumission adapté sous forme de série télé par Guillaume Niclou, cinéaste à qui l'on doit notamment Le délirant, L'enlèvement de Michel Houellebecq, Soumission farce mordante et roman polémique qui mettait en scène une France dirigée par un parti musulman, s'était écoulé à près de 800 000 exemplaires en France. La comédienne britannique Keira Knightley, invitée de Boomerang ce matin pour son interprétation de Colette, incarnait une icône française, tiens, dans un film tourné en anglais. Est-ce que ça vous a posé question ?
Non, ça ne m'a pas posé question, parce que j'étais vraiment effarée, enfin très surprise aux États-Unis, au Royaume-Uni. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui n'avaient jamais lu de romans de Colette. Bon, moi, ma mère, à moi, en était folle. Alors j'avais lu Chérie, La fin de Chérie, peut-être pas toute son œuvre, mais j'avais entendu parler d'elle, je la connaissais. Et j'étais très très surprise de voir qu'en Angleterre, les gens ne la connaissaient pas. C'est une histoire extraordinaire quand même, que la sienne, pouvoir la présenter à un public anglophone, je me suis dit c'est très important, c'est quand même une femme exceptionnelle, et s'ils peuvent ensuite aller découvrir son écriture, quand même qu'elle régale. Alors, ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'y ait pas de film français sur la vie de Colette, alors qu'il y a quand même une industrie du film extraordinaire dans ce pays, des réalisateurs exceptionnels. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas la version française de la vie de Colette quand même ? Allez, allez au boulot là.
C'est un message qui est adressé à l'industrie du film français par Keira Knightley. En tout cas, oui. Je me disais, c'est intéressant ce goût que vous avez pour les personnages historiques, pour les films d'époque, en costume. Parce que vous en avez fait un certain nombre quand même. Comment ça se fait ?
J'ai toujours aimé l'histoire. Depuis l'enfance, je sais que mon imagination va vers ces choses historiques. Il y a des enfants qui sont fascinés par l'espace. Moi, mon truc, ça a toujours été l'histoire, la peinture, et je voulais que ces choses-là prennent vie. Je voulais endosser ces vêtements-là. Donc je pense que ça vient de là, probablement. Et puis, il se trouve que ce qu'on m'a proposé comme rôle, les plus beaux rôles qu'on m'a proposé dans cette carrière, c'était toujours des films historiques. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les gens me voient davantage dans ce genre de film. Et en tout cas, c'est aussi les rôles les plus intéressants qui m'ont été proposés.
En tout cas, c'est assez impressionnant quand on y pense que vous êtes parvenu à accomplir en termes de filmographie en une quinzaine d'années. Petit flashback, Keira Knightley, c'est ça.
Miss Elizabeth Bennet.
Vous dansez, Monsieur Darcy ?
Pas si je peux y échapper.
Love is dance.
Indeed, most invigorating.
After what you have done for Lydia,
And I suspect for Jane also, it is I who should be making amends.
Pride and Prejudice. Glorious. Unmissable. And enchanting.
Hi.
Who is it?
It's Carol Singers.
I can't believe you kissed him. I look quite pretty.
I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
You've stayed rather close, haven't you?
But you never talk to me.
You always talk to Peter. You don't like me.
Just wait, Captain Sparrow. You give it 1 hour, maybe two, keep a weather eye open and you will see white sails on that horizon.
Why are you leaving Moscow? If you give up football now, what are you going to have to give up next?
You've really hurt me, Jess.
If you have any thought for me, you will give me back my peace.
I have no peace to give. I can mean no peace for us.
Well then...
Listen!
They're all of me. Your hands are cold.
Yeah.
Bah ouais, de tout ça, Keira Knightley, il y a un film qui retient particulièrement l'attention de l'ancien prof d'anglais que je suis, c'est évidemment Orgueil et Préjugés. Ce livre, il paraît que vous l'adorez et que vous le connaissez même par cœur.
I did. I don't anymore.
Je le connaissais par cœur, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais effectivement, j'étais fascinée, obsédée par ce livre quand j'étais petite. J'avais en fait l'audio-livre à l'époque, puisque je suis dyslexique, et je l'écoutais en boucle, littéralement. Et effectivement, il y a eu une époque où je le connaissais par cœur du début à la fin. Et j'avais une maison de poupée, c'était évidemment Pemberley ou alors Longbourn, ça dépend. Et j'écrivais des lettres des sœurs à leurs amoureux, etc. J'étais obsédée par cette histoire.
Ça veut dire que vous vouliez être Lizzie Bennet?
Oh que oui.
En même temps, Keira Knightley, entre nous, c'est le seul personnage auquel le lecteur puisse s'identifier dans Orgueil et Préjugés, j'ai l'impression, parce que les autres sont soit très laides, soit très bêtes, ce qui laisse pas beaucoup de choix.
Well, yeah, you definitely want to be Elizabeth Bennet. I mean, that's why it's written.
On souhaite être Elizabeth Bennet, et c'est comme ça que ça a été voulu. D'ailleurs, on ne veut pas être les autres sœurs. C'est elle qu'on veut être. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez effrayant quand j'ai fait ce film, hein, particulièrement en Angleterre, c'est que les gens s'identifient tous à Elizabeth Bennet. Tous ceux qui adorent ce livre s'identifient à elle. Comme moi, d'ailleurs, bien évidemment.
Quel modèle est-ce que ça a pu être pour vous, ce personnage?
I suppose just headstrong.
Peut-être parce que c'est une femme de tête. Je ne sais pas si je souhaiterais être Elizabeth Bennet aujourd'hui si je relisais le livre, mais à l'époque, oui, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien, qui a lutté contre l'ordre établi, qui a su se battre. Elle avait cette combativité qui donne envie, bien sûr.
Quel rapport, Keira Knightley, est-ce que vous entretenez avec la littérature et les mots? Vous incarnez quand même ici une femme de lettres dans Colette. Je sais que je suis très détendue quand j'arrive à m'asseoir et à me concentrer sur un livre, et que je ne suis pas très détendue quand je n'y arrive pas et que je regarde mon téléphone par la fenêtre. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je me détends quand je suis en mesure de me concentrer, que je peux disparaître complètement dans un autre monde avec un livre et que je peux m'échapper de manière générale. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore faire des adaptations de livres, parce que ça me donne l'occasion d'étudier vraiment à fond le travail de quelqu'un. C'est très créatif, évidemment. Et puis avec un livre aussi, on laisse libre cours à son imagination, on peut s'échapper. Mais comme je vous le disais, bien souvent, je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit, et c'est assez désespérant. On essaye de lire et on n'y arrive pas. Et puis, vous avez eu des problèmes avec la lecture quand vous étiez petite.
Effectivement, je continue de lire assez lentement. Je suis dyslexique, donc ça a été une lutte quand j'étais petite, hein, et je me sentais tellement bête à cause de cela. Donc, le moment où j'ai vraiment réussi à maîtriser tout cela, la lecture et à y prendre plaisir, hein, ça a été important.
Ce qui me frappe, c'est la façon très libre dont vous en parlez, de manière très pédagogique. Quand est-ce que votre parole s'est libérée sur ce sujet, Keira Knightley?
Je pense que lorsqu'on est dans la trentaine, ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'on peut vivre beaucoup de choses. On se dit, bon, j'ai vécu telle et telle chose dans le passé, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, mais la page est tournée. Je ne suis plus confrontée à ce problème actuellement. Donc, quand après, j'aurai un enfant qui peut être dyslexique ou pas. Il y a tellement de personnes dyslexiques. Quoi qu'il en soit, je trouve que chaque enfant dyslexique, ce qui est génial, c'est qu'il doit mettre les bouchées doubles, travailler deux fois plus que les autres pour arriver au même niveau. Et c'est quelque chose qui vous rend fort lorsqu'on enseigne quelque chose à un enfant en disant « il va falloir que tu travailles deux fois plus que les autres ». Si l'enfant peut faire face à cette difficulté, il va être très solide, très fort, cet enfant-là. Et je me suis dit, moi, lorsque je me suis rendu compte que j'étais dyslexique, je me suis dit « allez, bouge-toi, il faut y aller, mets les bouchées doubles ». Et je me suis dit « bon, bah, il faut faire deux fois plus pour obtenir le même résultat que les autres ». Et quand on est dyslexique, c'est un message important, on se dit « bah, travaille deux fois plus que les autres et vas-y ».
On va rester dans cette émancipation, Keira Knightley, et puis parce qu'on a à peu près le même âge, même si vous êtes sensiblement plus jeune que moi, je suis sûr que vous connaissez cette vieille chanson des Four Non Blondes, qui était un cri de liberté et d'émancipation justement dans les années 90. Elle s'appelait What's Up. Vous êtes sur France Inter avec Keira Knightley, vous écoutez Boomang et vous avez le droit de chanter.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors elle ne porte ni crinoline, ni perruque, ni corset. Elle est là, assise en face de moi, à l'aise, pleine de vie. Quelque chose d'extrêmement fier dans le regard, vous savez, quelque chose d'espiègle dans le sourire aussi, de volontaire, dans cette manière qu'elle a de vous parler en donnant des petits coups de menton en avant, qu'on se le tienne pour dit. Il ne faut pas la chercher. Avec sa petite veste noire et sa petite robe blanche ce matin, la comédienne Keira Knightley, pour son rôle dans le film Colette, où elle incarne une femme libre, une femme de lettres, mais aussi de théâtre, puisque Colette a aussi eu une carrière de comédienne, de musical. Quand pour la première fois, est-ce que vous avez éprouvé le frisson de la scène ?
Ma mère est scénariste et mon père est acteur. Donc très tôt, j'ai ces souvenirs. J'étais derrière dans la coulisse avec eux, dans des salles de répétition, et je me souviens que je voulais être sur scène moi aussi. Mais la première fois que j'ai joué un rôle, je devais avoir 12 ans, c'était quelque chose à la télévision en Angleterre, ça s'appelait Coming Home. Et j'ai adoré cette expérience, chacune des secondes de cette expérience. Et quand on joue nous, il y a le moment où on est en train de jouer une scène, mais tout à coup, c'est réel. On est ailleurs, une autre époque, une autre personne, et ça devient véritablement une addiction, et on veut retrouver cette sensation après.
On le voit dans Colette, en tout cas, la scène, pour elle, c'est un espace de liberté, un espace où elle se réinvente. En quoi est-ce que vous réinventez encore, vous, lorsque vous vous projetez dans un personnage?
Il faut, de toute façon, il faut tirer les apprentissages à chaque fois, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, essayer de voir comme eux voient les choses. C'est ce que j'adore. Et j'apprends grâce à ça, évidemment. Enfin, j'espère en tout cas.
Quels étaient les premiers personnages que vous ayez interprétés, petite, sur scène, Keira Knightley?
Sur scène, j'ai dû attendre l'âge de 24 ans, je crois. Et sauf erreur, ça devait être une version du Misanthrope. Je ne me souviens même plus du nom du personnage, abominable. Et puis ensuite, j'avais fait un rôle dans La Rumeur aussi, The Children's Hour. Et c'est très très intéressant de voir un public dans un théâtre. On se rend compte que ce public du théâtre a une personnalité propre. Tous les soirs, vous faites le même personnage, la même pièce, et pourtant, le public change l'émotion à cause de cette vibration collective, je suppose. Donc ça a été très intéressant. Le théâtre, c'est quelque chose de vivant, littéralement. Il répond, effectivement, le théâtre, au public.
On parle du métier d'acteur, mais à quel moment est-ce que le cinéma, précisément en tant qu'art, est rentré dans votre vie?
Très tôt. Je dirais Autant en emporte le vent, probablement. Ça a été mon premier film que je regardais en boucle, littéralement. Je voulais tellement être Scarlett O'Hara. Ça vous semble peut-être bizarre. Il y a ça, et puis Le Parrain. Moi, je voulais être Michael Corleone. Je ne voulais pas être les filles dans Le Parrain. Qui veut jouer les rôles de femmes dans Le Parrain, entre nous soit dit. Donc moi, je voulais être Michael Corleone. J'avais 12 ans. C'était une VHS à l'époque. Et puis ensuite, la VHS s'est cassée, j'ai racheté la cassette et je l'ai regardée en boucle aussi.
Vous savez que dans cette émission, on adore les émotions de cinéma. Si je vous mets par exemple cette musique-là. Tout de suite, quelles images vous viennent en tête? Quelle scène?
Elle est tellement horrible. Et c'est, je crois que c'est ce que j'adore d'ailleurs chez elle. C'est qu'elle n'est pas sympathique. Je devais avoir 9-10 ans, je pense, et voir à l'écran, tout à coup, cette femme qui n'était pas sympathique, qui était gâtée et qui pourtant était une survivante aussi. Ces survivantes, elles m'ont toujours intéressée. Alors, c'est cette image d'elle, les mains dans la terre. J'adorais ça.
C'est sûr que vous feriez une parfaite Scarlett O'Hara, Keira Knightley, puisque vous l'avez imitée de toute façon sous votre douche, devant votre miroir, je suppose.
Probablement. Elle et puis Catherine Hepburn. Toutes les histoires qui se passent à Philadelphie, les quatre filles du docteur Marsh, par exemple, Joe, par exemple, c'était le personnage que j'adorais. Ces femmes qui vont enfreindre les lois et qui luttent dans ce monde d'hommes. Moi, j'ai toujours adoré ça. Tous les enfants adorent ça.
C'est celle que vous êtes aujourd'hui ou c'est celle que vous aimeriez toujours être encore plus?
Non, je suis trop fatiguée. Vous vous rendez compte, j'ai un enfant de 3 ans et demi à la maison, c'est épuisant. Non, je pense que j'aspire davantage à cela. Encore que je suis plus calme, peut-être un petit peu plus flemmarde aussi. Mais j'essaye en tout cas.
Le personnage de Scarlett O'Hara, il est indissociable de l'interprétation de Vivien Leigh. Qu'est-ce qui fait pour vous une grande actrice, Keira Knightley?
Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Une grande actrice, c'est quelqu'un qui est crédible, totalement crédible. On comprend le point de vue qu'elle expose. C'est intéressant, vous prenez l'exemple de Vivien Leigh, de Scarlett O'Hara. On l'a dit, ce n'est pas un personnage sympathique, mais moi, je l'adore. Moi, j'aime les étrangers, certes, mais lorsque je vois un personnage, je veux pouvoir l'aimer, même s'il est méprisable. Et je pense qu'un grand acteur peut faire que vous lui pardonnez précisément et que vous comprenez la partie abominable du personnage qu'ils incarnent et que vous les adorez quand même.
Jusqu'ici, quel est le pire personnage que vous ayez interprété alors?
Moi, généralement, je ne joue pas de personnages vraiment méchants. J'aimerais bien d'ailleurs jouer davantage de personnages peu sympathiques. Le plus difficile, ça a probablement été Anna Karenine. C'est une femme qui est sur le point de se suicider quand même et qui est très en colère, qui est enfermée, littéralement comme en cage, elle est en pleine dépression. Et ça a été un rôle compliqué à jouer, avec empathie ou sympathie, parce que quand on lit le livre, on ne sait pas après tout si elle est l'héroïne ou l'anti-héroïne. On ne se dit pas, tiens, il faut que je fasse comme elle a fait, du tout. Vous savez, en principe, on dit, bon, tu te maries, tu n'es pas heureuse, il faut divorcer, mais ce n'est pas ce que dit Tolstoï. Il nous montre dans l'autre partie du livre cet amour parfait entre Levin et Kitty. Et puis il y a l'autre partie, Anna Karenine, il ne nous dit pas qu'il faut faire comme Anna Karenine. Donc c'est un personnage difficile à maîtriser et à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent « elle n'est pas sympathique ». Et oui, effectivement, elle n'est pas sympathique. Et c'est bien comme ça.
Quels sont vos modèles d'actrices? Vous en avez au moins?
Beaucoup d'actrices, Isabelle Adjani, vraiment, je l'ai toujours beaucoup, beaucoup aimée. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a tellement d'actrices exceptionnelles hein, et des films superbes. Il faudrait qu'il y en ait davantage, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup. Donc, j'aime toujours aller à la découverte de nouveaux films, de nouveaux acteurs ou actrices, ou revoir des films que je n'ai pas vus depuis très longtemps avec des actrices exceptionnelles.
Si on prend Vivienne Leigh, britannique, comme vous, Keira Knightley, j'aimerais qu'on se quitte en vous posant quand même une question sur le Royaume-Uni d'aujourd'hui, parce que les députés britanniques sont censés voter l'accord de sortie de l'Union européenne. Ce vote, il a été plusieurs fois reporté. Quel avenir est-ce que vous voyez, vous, à la Grande-Bretagne, vous, qui vous étiez prononcé publiquement hein, contre le Brexit? C'est un combat que vous portez.
Comme tout le monde, hein, je n'en ai pas la moindre idée.
That's interesting, isn't it?
C'est intéressant, non?
Vous êtes inquiète?
No.
Non.
I probably should be.
Je devrais d'ailleurs, probablement. Mais en tout cas, si j'en juge, mes amis autour de moi, nous ne savons absolument pas ce qui se passe. Je vis à Londres, je travaille beaucoup en Europe et j'ai voté pour rester dans l'Europe. Donc ce choix n'était pas le mien, évidemment. Mais rien n'est très clair, franchement, pour l'instant. C'est assez bizarre de vivre dans un monde où rien n'est clair. Hein.
Merci infiniment, Keira Knightley, d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci à votre interprète ce matin, la très Scarlett O'Hara, Hélène Joguet. Je rappelle que Colette de Wash Westmoreland avec Dominic West et Eleanor Tomlinson, entre autres, sort demain, tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier.
Les Salines, Alain Bachung sur France Inter.